6h03, vendredi 21 septembre. Bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. D'abord, vous dire qu'il y a un avertissement de vent pour la région métropolitaine. C'est une journée, évidemment, maussade, avec de la pluie, des averses, des orages même. En tout cas, il y a un potentiel. C'est 15 degrés, avec du temps couvert actuellement. Et la pluie intermittente devrait cesser au cours de l'après-midi. Soleil, nuages par la suite, mais ce sera bref. Il y a même à travers la matinée un risque d'orage et les vents, je vous le disais, de 30 à 60 km/h. Le maximum prévu pour aujourd'hui, 24 degrés. Ce soir et cette nuit, des averses qui vont cesser tard en soirée. Dégagement par la suite. Encore là, risque d'orage, donc température assez instable. Et des vents ce soir aussi, parfois des rafales à 90 km/h. Donc c'est une soirée de pluie, de vent et... je dirais également assez fraîche, somme toute. Pour ce qui est du week-end, par contre, les nouvelles sont excellentes. Ça a valsé un peu depuis 48 heures. Donc, demain, samedi, on prévoit du temps généralement ensoleillé avec un maximum de 16 degrés. Et dimanche, encore là, du soleil pour le marathon et un maximum de 18. Commençons par le débat des chefs qui était présenté hier. Donc, le débat qui était basé sur une formule très différente de celui qu'on a vu la semaine passée à Radio-Canada, avec des échanges directs entre deux candidats, et après ça, les deux autres pouvaient sauter dans la mêlée. C'était un peu cacophonique par moment, mais ça, je vous dirais, dans un débat, là, c'est inévitable. T'as beau avoir n'importe quelle formule, là, un qui parle par-dessus l'autre, puis qui veut pas, ou qui tente de faire dévier le sujet, c'est... une question. En fait, je dirais que c'est une habitude dans ce type de débat. Mais regardons ce qui s'est passé. Dans un premier temps, je pense qu'on peut dire que François Legault, en admettant qu'il n'était pas parfait puis qu'il faisait des erreurs, marque des points. J'ai trouvé hier qu'il était, en tout cas visiblement, plus en contrôle, plus efficace, mieux préparé et a peut-être rassuré des gens. Dans le cas de M. Couillard, c'est évidemment... l'homme qui défend son gouvernement, qui est principalement ciblé et qui le fait avec son style habituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un de cartésien qui répond, qui envoie quelques flèches, mais qui veut dire aux Québécois, puis ça c'est l'image qu'on tente de projeter, voici un chef d'État, voici quelqu'un qui est à la hauteur du poste de premier ministre. Alors, il n'y a pas eu de faux pas, il n'y a pas eu, sauf évidemment, l'histoire en journée du 75 $ pour une famille de trois, pour le budget de l'épicerie. Je m'excuse, là, ça ne tient pas la route une seconde. Et je ne suis pas le seul à le dire, là. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi il s'entête à dire ça, là. Mais c'est faux. Je veux dire, je comprends qu'il y a des gens qui vont manger avec 75. Il y en a qui vont avoir 60$. Il y en a qui vont avoir 40$ pour nourrir une famille. Est-ce qu'on peut dire pour autant que ces gens-là sont capables de nourrir leur famille? Tout le monde dit qu'en bas de, puis là, je vais prendre là, les plus conservateurs, 125 ou 140 par semaine, oublie ça. Oublie ça. Primo. Deuxièmement, je lisais ce matin des diététistes qui disaient que ce que M. Couillard dit était vrai dans les années 80. Alors, ça se peut là, qu'il ne fasse pas l'épicerie, là, puis c'est correct. Ça se peut qu'il ait perdu un peu le sens des prix. Mais il aurait pu dire, écoutez, j'ai mal évalué ça. Non, il s'entête, puis il nous répète que c'est ça. Sylvain Charlebois, qui est le prof en agroalimentaire, à qui on parle assez souvent, a dit aux gens qui vérifient les faits à Radio-Canada que c'est totalement faux, que ça ne tient pas la route. Alors, ça, c'est une gaffe. Et ça montre quoi à l'électorat? Puis je le vois dans vos courriels. C'est pas la fin du monde, c'est juste une déclaration. Mais tu te dis, ce gars-là, il n'est pas sensible à ce qu'on vit. Il veut nous faciliter la vie, mais il ne connaît pas notre vie. C'est un peu carré comme résumé, mais c'est ça. Troisièmement, dans le cas de Jean-François Lisée, c'est assez étrange ce qui s'est passé. De demander à Manon Massé qui est le véritable chef de Québec solidaire, là tu te dis, mais pourquoi on arrive à cette question-là, puis en quoi ça nous intéresse, puis en quoi ça intéresse le monde? Je n'ai pas trouvé Jean-François Lisée très bon. Autant je le trouvais efficace et bon lors du débat, le premier. Hier, là, c'était dur à suivre. C'était dur à suivre. Et dans le cas de Manon Massé, puis je pensais à l'entrevue que j'ai faite avec elle hier. Dans le fond, elle présente des idées qu'elle n'a pas à défendre tant que ça. Parce que les autres ne veulent pas trop perdre de temps d'échange. Elle dit qu'elle va trouver 12 milliards. Bon, ben, tu sais, c'est correct. Elle va trouver 12 milliards. On ne peut pas débattre là-dessus pendant des heures. On peut dire que ça apparaît totalement irréaliste. Elle va nous dire que non. Puis elle va nous expliquer que... puis c'est ce qu'elle fait dans le débat. Elle présente, elle déballe les positions de Québec solidaire. Puis elle dit, voici, dans l'éducation, ça va être gratuit jusqu'au doctorat, puis il y aura des services dentaires gratuits. Puis on va taxer plus les gens qui ont les plus hauts revenus. T'écoutes ça, tu dis, puis on va récupérer l'argent. Puis il faut arrêter d'avoir peur. Le débat s'est un peu terminé comme ça. Donc, je reviens sur deux événements dans le débat. L'échange entre M. Couillard et M. Legault sur les questions d'immigration. Puis là, on essaie de piéger, évidemment, Legault en disant, vous voulez quoi, expulser les gens qui vont échouer vos tests.
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant de donner le certificat de sélection, on va exiger deux choses. Un test de français puis un test de valeur. Il n'est pas question d'expulser. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on n'acceptera pas.
Vous avez changé d'idée, là.
Non. Ce qu'on dit, là, les seuls qu'on veut expulser, là, c'est le Parti libéral. C'est le seul qu'on veut expulser au Québec, c'est le Parti libéral.
Non, mais vous avez toujours dit que s'ils échouent après 3 ans, ils allaient être expulsés.
C'est comme quelqu'un
vous allez en expulser combien? Statut, dans un mandat de 4 ans.
Il n'est pas question d'expulser une personne. On dit qu'on ne va pas les accepter. On ne va pas les accepter. M. Couillard puis ses amis, là, essayent de faire peur au monde. On dit qu'on va avoir des tests. S'ils ne sont pas réussis, ils ne sont pas acceptés.
OK. Ça, là, c'est le genre de truc qui va lui coller jusqu'à la fin de la campagne. Et je vous le dis depuis le début, l'histoire des tests, ça ne marche pas. Ça ne tient pas la route. C'est correct. Les gens qui viennent au Québec, d'abord, remplir un test sur les valeurs. Êtes-vous pour ou contre l'égalité homme-femme? Tu veux passer ton test, tu vas répondre ce que tu es assez facilement, là. C'est pas un problème. Le français, est-ce que tu le maîtrises ou pas? Il arrive quoi si tu le maîtrises pas? Là, ce qu'on a compris depuis le début, c'est qu'il va baisser la difficulté du test. Puis que dans le fond, là, tout le monde va passer. Puis même si la personne ne maîtrise pas le français, tu fais quoi avec? T'étire le délai, t'amènes ça un peu plus loin. Il n'y avait pas besoin de dire ça. Si M. Legault s'était concentré en disant « je veux qu'on questionne, qu'on fasse un débat sur le nombre d'immigrants qu'on accueille au Québec », c'est une chose. Mais cette espèce de patente qui ne tient pas la route, là, m'excuse, là, c'est pas bien bon. Mais sur le reste, hier, il a quand même été un peu plus performant. Sur la question, là, qui est le véritable chef de Québec solidaire? Je sais que ce que M. Lisée voulait faire, là. Il voulait dire, dans le fond, que Manon Massé n'est pas chef du parti. Elle n'est que porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois. Quand vous allez sur le site du DGE, chef du parti Québec solidaire, c'est Gaétan Châteauneuf. Qui est Gaétan Châteauneuf? C'est un ancien mécanicien de la Société de transport de Montréal. Il a été président du syndicat. Il a œuvré dans les milieux, disons, populaires, puis il a travaillé à la CSN. Puis il fait partie de ceux qui ont fondé Québec solidaire. Il a été candidat pour Québec solidaire. Officiellement, depuis le 1er janvier, il est le chef du parti. Et ce que Mme Massé a répondu, puis ce qui est vrai, c'est que le mode de fonctionnement de Québec solidaire est différent. Il y a un chef, puis des porte-paroles. Puis les porte-paroles, bien, c'est Nadeau-Dubois, puis c'est Manon Massé. On se souvient de l'avortement des discussions entre le Parti québécois et Québec solidaire pour l'unification des forces indépendantistes et un peu plus de gauche. Et le PQ en veut à mort à ce qu'on a appelé le Politburo. Donc, l'instance décisionnelle de Québec solidaire qui a fait dérailler ce qui était à portée de main. Et ce sont les gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, dont ce monsieur Châteauneuf. En bout de ligne, ça ne nous touche pas tellement, entre vous et moi, là, parce que les gens vont voter pour qui? Et le parti a désigné que, ça fait, c'est dans les statuts et règlements. Alors, c'est Manon Massé qui est désignée par le Parti Québec solidaire pour être celle qui mène la campagne et qui sera première ministre si Québec solidaire prend le pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Et je comprends la frustration là, des péquistes là, qui disaient la gang, là, le noyau dur de Québec solidaire est empêché qu'on puisse peut-être se rapprocher d'une victoire électorale. Et c'est un peu ce que voulait dire Jean-François Lisée hier en disant, regardez, là, il y a une force obscure derrière les rideaux qui tire les ficelles, et ces gens-là, on ne les voit jamais. Pour certains que ça va aider dans les relations Québec solidaire, mais ce qui est clair, là, puis je reviens à l'entrevue avec Manon Massé hier, c'est impossible que Québec solidaire et le PQ s'entendent. La charte, ça a amené bien des gens vers Québec solidaire. Et la position du gouvernement Marois sur Anticosti, la cimenterie, elle l'a répété encore hier au débat, ça ne peut pas aller avec le Parti québécois et des gens de Québec solidaire. Alors, ça vient comme fermer une étape importante de cette campagne. Les chefs qui seront dimanche à Tout le monde en parle, les quatre ensemble, encore une fois, mais sans que ça soit un véritable débat là, dans des formats qui sont comme préétablis. On fait une courte pause pour retrouver Marc, évidemment. C'est vendredi, c'était tranquille tantôt, là, ça a l'air de quoi? Très bien, on poursuit notre revue de presse. D'abord, dans la presse, on nous dit ce matin que les soldats qui sont déployés en Irak se font interdire de consommer les boissons énergisantes. Il y a d'autres armées, d'ailleurs, qui ont pris de telles mesures. C'est une directive qui a comme objectif de minimiser les risques opérationnels, dit le commandant de la force interarmée en Irak. Ça a été transmis le 13 août dernier et tout défaut de se conformer à cet ordre est une offense relevant de la loi sur la défense nationale et sera traité en conséquence, ce qui inclut des sanctions administratives ou disciplinaires. Et là, il semble qu'il y a une consommation assez élevée. D'abord, on parle de 850 soldats qui sont déployés en Irak depuis 2014 et c'est une mission, dit-on, de soutien aérien. Et une étude démontre, et là, ça date de 2014, que 45 % des soldats américains qui étaient en Afghanistan consommaient au moins une boisson énergisante par jour. Une autre étude rapporte que certains soldats consomment jusqu'à 2000 mg par jour de ces boissons, ce qui est l'équivalent de 10 cafés format moyen chez Tim Hortons. T'es sur le gonzo un peu. Alors, tout ça pour éviter des erreurs lors des opérations. Et beaucoup, évidemment, en consomment pour toutes sortes de raisons. Certains disent pour chasser le stress, d'autres disent pour rester réveillé parce que c'est pas facile. Évidemment, quand on est déployé dans un territoire comme l'Irak, puis c'était, on le sait, pour combattre les forces de l'État islamique. Autre chose ce matin, ça c'est assez bizarre, c'est en France, mais ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Marine Le Pen est présentement devant les tribunaux. Je vais résumer. On l'accuse d'avoir diffusé des photos, des scènes d'horreur lors des gestes d'exécution posés par des djihadistes. Et donc, c'est une ordonnance qui est datée du 11 septembre et qui émane de la juge qui a instruit l'enquête sur cette diffusion d'images violentes. Et dans cette ordonnance, elle demande de procéder à un examen psychiatrique de Marianne Le Pen dans les plus brefs délais. Imaginez-vous, là, c'est comme si on disait d'un chef ici au Québec, là, compte tenu de ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, comme il y a une poursuite, on va demander à un psychiatre d'évaluer un des quatre chefs hier. Tu dis, voyons donc. Et là, Marine Le Pen est évidemment scandalisée. Elle dit, dans certains pays, là, on utilise la psychiatrie justement pour faire taire les opposants politiques puis les faire passer pour fous. Alors, elle affirme avoir dénoncé les horreurs de Daesh et elle trouve que là, on dépasse les bornes. Jusqu'où vont-ils aller, a-t-elle tweeté hier, en comparant cette méthode à des façons de faire employées dans les régimes totalitaires. Et il y a même des adversaires de Mme Le Pen qui ont dit, écoutez, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Et elle est politiquement responsable de ses actes politiques. Est-ce qu'on veut la faire passer pour folle? On est un peu dans ce genre de débat. Alors, entre vous et moi, c'est quand même assez spécial. Alors voilà pour Mme Le Pen, qui qui n'en est pas ses premiers démêlés. Un mot aussi dans Le Devoir, c'est intéressant. Le budget du Québec en publicité est évidemment très élevé. Et là, ce qu'on découvre, c'est que Québec dépense de plus en plus sur le web. On parle ici d'un montant qui a atteint 6 millions de dollars, une hausse de 120 % par rapport à l'année précédente. Alors, on parle de toutes les pubs que vous voyez là, quand vous naviguez sur le web. Alors, on achète les pubs où? Évidemment, chez Google, Facebook, Twitter et d'autres sites. On veut juste préciser en même temps qu'on prend l'argent public québécois pour acheter de la pub sur des sites qui ne perçoivent pas les taxes. C'est assez spécial. Là, on comprend l'objectif du gouvernement. Ils ne sont pas différents de d'autres acheteurs de pub qui disent ben c'est plus efficace, puis on rejoint les groupes cibles qui nous intéressent. Mais c'est quand même un peu achalant de se faire dire qu'on met de plus en plus de pubs sur des entreprises qui ne veulent même pas participer à la collecte des taxes alors que d'autres sont obligés de le faire. Puis là, on revient à l'histoire Netflix. Et j'imagine que la réponse, ce sera, on est en train d'étudier une formule, on va essayer de découvrir une façon et probablement qu'on va faire un peu ce qu'on a. On est en train de négocier, si on veut, avec Netflix. Et puis, on va parler aussi d'immigration un peu plus tard ce matin. Évidemment, dans le cadre du débat. Mais aussi pour les gens qui vont aux États-Unis. Là, ça a l'air de rien, mais le cannabis, ça va être légal dans quelques semaines. Et il y a plein de questions qui se posent, notamment sur les gens qui vont vouloir se rendre aux États-Unis. C'est vrai que le cannabis est légal dans certains États américains, mais ce qui est légal au Canada, sur le plan fédéral, et ça inclut les douanes, là, c'est considéré comme une substance interdite. Donc, est-ce que on va avoir des problèmes pour est-ce que certaines personnes vont avoir des problèmes pour traverser la frontière? Et si on vous pose des questions, avez-vous déjà consommé du cannabis? Puis vous répondez non, puis on découvre que peut-être que oui. Là, vous allez être dans le trouble. Alors, on va parler avec un avocat qui est spécialisé sur ces questions-là plus tard ce matin. Il n'y a pas de cas, là, mais c'est sûr qu'il y a un paquet d'enjeux qui vont apparaître au lendemain, là, dans les semaines, les mois qui vont suivre la légalisation du cannabis. 6h21 minutes, l'autoroute 13.